Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé, bien-être du lundi au vendredi de 15h à 16h. Comme tous les jours, je suis très bien accompagnée dans ce studio par le docteur d'Europe 1, le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie, bonjour à tous.
Dans notre grand dossier du jour, nous allons nous intéresser aux adultes surdoués. Oui, on a souvent parlé des enfants à haut potentiel dans cette émission, mais que deviennent-ils quand ils grandissent ces enfants? Une fois adultes, sont-ils forcément en décalage avec les autres? Ont-ils, comme on l'entend beaucoup en ce moment, une hypersensibilité à associé. Comment savoir d'ailleurs si on est surdoué? Pour nous aider à y voir plus clair, nous recevrons Jeanne Siofachin. Elle est psychologue praticienne, spécialiste reconnue des surdoués. Ensuite, comme tous les vendredis, notre chronique Bien chez soi avec ce sujet aujourd'hui. Comment savoir si votre air intérieur, chez vous, à votre domicile, est pollué? On nous dit sans cesse en ce moment d'ouvrir grand les fenêtres, mais y a-t-il des moyens pour savoir que c'est le moment de le faire, de tout ouvrir? Jimmy nous dira ce qu'il en pense. Et enfin, vers 15h50, nous retrouverons la chronique sexo de Catherine Blanc. Aujourd'hui, elle nous parlera de ces couples qui partagent tout, qui n'ont aucun secret l'un pour l'autre.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc, on va démarrer, Jimmy, par cette question d'Hélène pour vous. Écoutons-la.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy, je vous téléphone. En fait, j'ai une question. Mon mari est assez somnolent pendant la journée. Ça m'inquiète un peu. Est-ce que vous pensez qu'il pourrait souffrir de narcolepsie comme ça d'un seul coup? Est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur la narcolepsie, s'il vous plaît?
Alors Jimmy, ce que cette dame décrit, donc un mari somnolent de plus en plus, est-ce que ça c'est un signe de narcolepsie ou pas? C'est quoi la narcolepsie?
Alors c'est un peu léger pour définir la narcolepsie.
Il a le droit d'avoir... de la consultation ici, mais bon, éclairez-nous quand même.
Évidemment, ce monsieur a le droit d'avoir des problèmes de sommeil, il a le droit d'avoir de l'apnée du sommeil, d'être insomniaque, d'être dépressif, d'avoir d'autres troubles du sommeil qu'à la narcolepsie. Mais si jamais on doit expliquer ce que c'est, la narcolepsie, ça correspond à des accès de somnolence. Tout d'un coup, on va être très fatigué, on va avoir un besoin irrépressible de dormir. Et d'ailleurs, c'est assez facile en consultation, notamment chez les enfants, de voir qui est narcoleptique, c'est qu'on va s'endormir sur la chaise, on va s'endormir dans les transports en commun, on va s'endormir dans la voiture. Dès lors que le cerveau n'est plus en activité, eh bien on va se réveiller, on va s'endormir. Et puis la narcolepsie, elle peut se caractériser par ce qu'on appelle des cataplexies. Lorsqu'il y a une émotion, qu'elle soit positive ou négative, vous regardez quelque chose de drôle, eh bien tout d'un coup il y a une baisse du tonus musculaire, notamment au niveau du cou, avec une baisse de la tête, et puis petit à petit les jambes vont tomber et la personne va faire
elle flanche,
pas un malaise, exactement, elle va flancher. C'est ce qu'on appelle la cataplexie. Et paradoxalement, le narcoleptique est une personne qui dort assez mal. La nuit, elle va se plaindre de mouvements de jambes, de troubles du sommeil avec justement des réveils nocturnes, des hallucinations et même des paralysies du sommeil. Donc la nuit, ils dorment mal et en journée, ils ont envie de dormir.
Bon.
C'est ce qui caractérise la narcolepsie.
Est-ce qu'à quel âge, parce que là on n'a pas l'âge de ce monsieur, mais enfin, c'est un homme d'âge adulte, peut-être d'âge mûr, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un âge en particulier où on est plus ou moins touché par la narcolepsie?
Il y a deux pics de découverte de la narcolepsie, ça peut être dans l'enfance jusqu'à 15 ans et puis un peu plus tardivement, vers 40-50 ans. Ça reste heureusement une maladie très rare, mais ce qui est dramatique, c'est qu'il y a une méconnaissance de la pathologie, le délai moyen de diagnostic entre le début des symptômes et le moment où on vous dit que vous êtes narcoleptique, eh bien c'est 10 ans. 10 ans d'errance médicale.
Donc, et ça se traite la narcolepsie comment?
Alors la narcolepsie, elle ne se guérit pas. On va donner des psychostimulants justement pour permettre d'être un peu réveillé et d'éviter les cataplexies puisque c'est ce qui gêne le plus les patients.
Ça peut être dangereux, j'imagine, hein, si
les
on est au volant par exemple.
Ils peuvent conduire, on leur fait faire des tests pour être sûr qu'ils peuvent maintenir l'éveil. C'est le médecin qui donne ça. Néanmoins, il va falloir adapter sa règle de vie, son hygiène de vie avec des siestes en journée. Et puis se rendre compte que le trouble du sommeil va avoir un impact sur les performances scolaires chez les enfants, sur l'irritabilité, la sociabilisation et même la vie de famille. Donc c'est une prise en charge qui est bien plus compliquée que celle consiste à donner que des médicaments.
Très bien, merci beaucoup Jimmy. On apprend tellement de choses grâce à vous. Merci. Non, j'arrête de rigoler, pardon. On va prendre une deuxième question, mais c'est vrai, on apprend beaucoup de choses avec vous. On va prendre la question de Patrick qui nous a appelé de Strasbourg.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. Alors, j'ai une petite question pour vous. Il y a mon docteur qui m'a prescrit de la cortisone. C'est un traitement de fond hein, pour mes allergies justement. Mais j'ai lu que ça pouvait engendrer des problèmes et des risques au long terme, notamment au niveau des os. Est-ce que vous pourriez m'en dire un peu plus, s'il vous plaît? Je vous remercie beaucoup pour la réponse et passez une excellente journée.
Merci beaucoup Patrick. Alors Jimmy, peut-être pouvez-vous nous rappeler d'abord ce qu'est finalement la cortisone? Là, il le décrit dans le cadre d'allergies, mais on peut utiliser la cortisone pour plein d'autres indications. C'est quoi la cortisone?
Alors déjà, on n'utilise pas la cortisone pour un problème allergique. La cortisone, c'est des anti-inflammatoires stéroïdiens qu'on utilise parfois sur de courtes périodes lorsque vous avez une sinusite, une crise d'asthme, ou sur le long terme quand vous avez des maladies inflammatoires comme une sclérose en plaques qui va être en poussée, une polyarthrite rhumatoïde, une maladie de Crohn. mais jamais sur de l'allergie, car ça va finir par vous entraîner tous les effets secondaires des corticoïdes.
Alors oui, justement, comme la plupart des médicaments, là, il nous parle d'effets secondaires, possiblement de problèmes osseux, c'est possible, c'est ça?
Exactement, ça va finir par abîmer l'os. Alors sur le moyen long terme, sur le court terme, pas de problème pour les corticoïdes, notamment chez l'asthmatique. En revanche, ce qu'on sait, c'est que ça va entraîner une déminéralisation osseuse, c'est-à-dire que votre os va être plus fragile et plus susceptible d'avoir de l'ostéoporose. Et sur le long terme, ça va entraîner des tassements au niveau des vertèbres. Et puis, ça va aussi détruire l'os littéralement et aboutir à ce qu'on appelle une ostéonécrose. Votre hanche va nécroser sous l'effet des corticoïdes. Et chez les enfants, lorsqu'ils sont trop utilisés, ça va être responsable d'un retard de croissance. Donc oui, les corticoïdes sur le long terme ont un véritable impact sur l'os.
Alors, il y a d'autres effets secondaires, je crois, notamment sur l'appétit, sur les surrénales. Enfin, on ne va peut-être pas aller dans le détail complètement, mais c'est quoi les effets?
Alors, ça va toucher la peau avec de l'acné, une prise de poids, des vergetures, une fragilisation des cutanées. Vous allez avoir du diabète, de l'hypertension artérielle.
Ça fait très peur tout ce que vous nous dites là, mais ça, c'est utile quand même parfois, mais attention à ces effets. Quoi.
Voilà,
c'est ça,
d'où l'idée de donner la plus faible dose pendant la période la plus courte. Et certains patients vont avoir quelques milligrammes par jour pour contrôler notamment une maladie rhumatismale, ils vont se porter très très bien sans quasiment aucun effet secondaire. Toujours est-il qu'il ne faut pas prendre ce médicament en automédication.
D'accord, et justement par contre, si ces effets secondaires apparaissent, on n'arrête pas tout seul. Si on nous l'a prescrit, il y a une bonne raison, on en parle toujours à son médecin.
Car l'arrêt brutal des corticoïdes va entraîner une forme d'endormissement des surrénales. La surrénale, c'est ce qui crée de la cortisone. Sauf que quand vous en prenez sous forme de comprimé, eh bien elle va s'endormir. Et le jour où vous allez arrêter de prendre les corticoïdes, cette surrénale, elle ne va pas se réveiller et vous allez faire une insuffisance surrénalienne aiguë, un accident grave. Donc on n'arrête jamais le traitement sans l'avis du médecin.
Très bien, merci beaucoup Jimmy. Alors si vous aussi voulez nous laisser vos questions au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout, n'hésitez pas.
Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Très heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission Santé Bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors accueillons tout de suite notre invité pour le dossier du jour. C'est vous, Jeanne Siofachin. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychologue praticienne, vous êtes spécialiste reconnue des surdoués auxquels vous avez d'ailleurs consacré plusieurs ouvrages. Alors pour rester dans notre thème du jour, je vais signaler celui-ci, Trop intelligent pour être heureux, l'adulte surdoué qui est paru chez Odile Jacob. Alors d'abord justement, pour bien comprendre de quoi on va parler, comment on peut finalement définir les choses. Un surdoué, qu'est-ce que ça veut dire?
Alors déjà, trop intelligent pour être heureux, il y a un point d'interrogation. Et ça, c'est très important, parce que c'est un questionnement. Hein, est-ce que l'intelligence peut avoir un impact sur notre sentiment de bien-être et sur notre sentiment de satisfaction de vie? Alors ensuite, moi, je me suis intéressée à ce sujet-là par les enfants et par les difficultés des enfants qui étaient très paradoxales. C'est-à-dire où on pouvait observer chez des enfants très intelligents des échecs scolaires cuisants, mais aussi des souffrances psychologiques sévères, alors qu'a priori, précisément, ils avaient tous les atouts pour réussir brillamment et académiquement leur parcours scolaire. Et je me suis intéressée aux adultes surdoués, ou zèbres, comme j'ai pris l'habitude de les appeler, on dira peut-être un mot après. Exactement avec la question que vous donniez, Mélanie, en intro, que deviennent-ils? C'est-à-dire de façon complètement invraisemblable, et j'avoue avec toute humilité, que je recevais beaucoup d'enfants et d'adolescents pour lesquels on faisait des bilans complets et qui étaient identifiés comme des enfants ou des adolescents à haut potentiel. Et je voyais des papas ou des mamans s'effondrer en larmes devant moi en me disant « Mais vous êtes en train de raconter ma vie.
Ah oui.
Tout ce que vous dites, c'est ma vie. » Et moi, c'est dingue d'ailleurs, je ne m'étais jamais posé la question. Je me suis dit exactement, mais c'est vrai, mais que deviennent-ils ces enfants et ces ados à l'âge adulte? Et à cette époque-là, il y a quand même, je ne sais plus, longtemps maintenant. Il y a un certain temps, je me suis retournée, je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucun bouquin qui existait sur le sujet. Et je me suis dit, Jeanne, tant pis, il faut que tu t'y colles et il faut que tu essayes de comprendre. Et à partir de là, je le dis, mais je vais vous expliquer pourquoi je le dis, parce que à partir de là, j'ai regroupé ces parents qui s'étaient effondrés en larmes. On a fait des bilans avec ces parents-là. À partir de là, j'ai fait des groupes d'investigation, des groupes qu'on pourrait appeler de recherche clinique à mon niveau. Hein, ce n'est pas de recherche universitaire et des validations scientifiques. Mais ce n'était pas des patients consultants. Parce que quelquefois, on me dit « Oui, mais vous avez écrit un livre à partir de vos patients et donc forcément, vous en déduisez qu'ils peuvent avoir des difficultés. » Non, ce livre a été écrit sur une population tout venant.
Mais du coup, est-ce qu'on peut être un adulte surdoué sans jamais avoir été diagnostiqué dans l'enfance et avoir construit une vie confortable dans une totale ignorance?
Mais bien sûr. Mais bien sûr, alors déjà, on ne parle pas justement de diagnostic parce que ce n'est pas une pathologie. Donc, merci de souligner ça. On identifie et on peut très bien ne pas être identifié et avoir une vie tout à fait tranquille et sereine, sans souci. Après, les personnes dont je parle et les personnes dont il faut parler, c'est les personnes pour lesquelles il y a un vrai sentiment de décalage. Je pense que c'est ce sentiment de décalage, d'ailleurs, hein, qui fait... J'étais juste avant l'émission, à l'instant, avec une patiente de 40 ans qui est venue me voir en larmes en me disant « j'en peux plus, je me sens en permanence en décalage avec tout le monde, ça me donne la chair de poule, rien que vous en parler ». En me disant « je réagis trop fort à tout, je me sens complètement une imposture, je me sens jamais légitime, une fille brillante hein, qui a réussi des choses brillamment. » Et donc la réussite affichée et peut être aussi très largement en décalage avec le vécu de la personne. Et elle n'en pouvait plus en me disant, on me dit tout le temps, tu es trop excessive, tu cherches trop le moindre détail, tu veux toujours aller trop loin, tu es trop persévérant, tu lâches jamais rien. Et elle n'en pouvait plus.
Vous avez des qualités quand même, tout ça.
Mais bien
bon,
sûr,
voilà.
mais c'est souvent le regard des autres qui renvoie à l'adulte cette sensation de ne pas être comme tout le monde.
Jeanne Siofachin, est-ce que c'est correct d'ailleurs de dire surdoué? Donc vous avez dit, il y a certains qui les appellent les hauts potentiels, vous les appelez les zèbres. Comment il faut les appeler? Est-ce que ça a une importance finalement de comment on les appelle?
Je crois que ça en a une, parce que en fait c'est hyper compliqué ce mot de surdoué. Ça donne vraiment une espèce de sensation.
Super cerveau, on a l'impression.
C'est ça. Ouais. Et puis qu'il y a une espèce de petit truc qui vous est tombé comme ça sur la tête. Et en fait, c'est la traduction, pas très juste d'ailleurs, de l'anglais gifted, qui a reçu un cadeau. Oui. Hein, c'est ça.
C'est joli,
ça,
là, je trouve.
Oui, ouais. C'est déjà plus joli. Et c'est très difficile, surtout pour des parents qui vont dire « Ah ben, mon enfant est surdoué », avec tous les fantasmes que ça peut représenter. Et puis le haut potentiel, c'est aussi tout de suite, on place une espèce de barre.
Il y en a beaucoup des parents qui racontent ça en ce moment à la sortie des écoles, moi, je trouve. Mais, hein, j'ai l'impression qu'il y en a partout. Hein.
Mais oui, mais pourquoi? Parce que souvent, on me dit « Mais c'est devenu une mode ». Mais c'est vrai. Enfin, c'est vrai. Et pourquoi c'est devenu une mode? C'est devenu une mode parce que la psychologie a énormément évolué ces 15 dernières années et qu'il y a beaucoup de choses. C'est comme tous les troubles 10. La dyslexie, bon, depuis un peu plus longtemps, mais à peine.
Dyspraxie, dyspraxie,
la dyscalculie, ouais. Enfin, tout ce club des 10, les troubles de l'attention. Tout ça, on ne connaissait pas avant. Et on disait, il est paresseux, il a un poil dans la main, il n'est pas motivé. Donc aujourd'hui, la psychologie a les moyens d'aller investiguer, de mieux comprendre qu'est-ce qui se passe et de dresser finalement une carte du territoire pour aider et accompagner au mieux les enfants et les adolescents et les adultes.
Et justement, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau d'un surdoué, d'une personne à haut potentiel? Ils ont des neurones plus synchronisés, plus
nombreux.
Rapides, plus nombreux. Qu'est-ce qui fait que certains vont avoir des capacités extraordinaires comme Mélanie?
Non. Oh, merci, c'est gentil. Mais...
Je ne ferai pas d'identification sauvage de personne.
Non.
Mais merci pour cette question, Jimmy. Oui, alors, il n'y a pas plus de neurones, mais en revanche, il y a, ça c'est bien établi maintenant, une transmission des informations, c'est-à-dire que les informations qui sont captées par l'ensemble des cinq sens arrivent beaucoup plus rapidement au cerveau, premièrement. Deuxièmement, les informations d'une partie du cerveau à l'autre vont beaucoup, beaucoup plus vite. Hein. Ce sont des neurones à grande vitesse, donc ils circulent beaucoup plus rapidement, qui vont se distribuer aussi beaucoup plus largement dans le cerveau. Donc,
c'est un grand bouillonnement, quoi.
C'est ça.
Plus
et
que
puis
non.
Là, entre le devant du crâne, où on est un peu notre zone pilote, notre zone de contrôle du cerveau, la partie la plus intelligente de notre cerveau, et l'arrière avec les lobes pariétaux, il y a une grosse densité avec beaucoup de myéline et donc aussi beaucoup de vitesse, une grosse densité de neurones beaucoup plus importante. Plus le dernier point qu'on valide aujourd'hui, c'est l'hyperconnectivité entre les deux neurones au niveau du
lobe frontal.
Non, du
cortex frontal.
Non, le truc qui rejoint les deux hémisphères.
La scissure.
Non.
Le sillon intercalaire.
Non.
Ah, je ne peux pas vous aider.
Enfin bon, bref. En tout cas, ça connecte mieux entre les deux hémisphères cérébraux.
Très bien. Jeanne Siofachin, on va poursuivre cet entretien dans quelques minutes. Vous restez bien avec nous.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé, Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Alors notre invitée, elle est toujours en studio avec nous. C'est vous, Jeanne Siofachin. Vous êtes psychologue praticienne, spécialiste des surdoués. Et donc pour bien coller à notre thème du jour, je signale ce livre que vous avez écrit sur le sujet « Trop intelligent pour être heureux ?» L'adulte surdoué, paru chez Odile Jacob. Alors Jeanne Siofachin, on va justement s'intéresser à ces adultes surdoués qui se découvrent parfois, donc souvent, même sur le tard. D'abord, c'est fréquent justement que des adultes
te pose cette question, comme ça, du jour au lendemain. Vous décriviez tout à l'heure des parents qui s'effondrent tout d'un coup parce qu'ils sont en train de dépister leur enfant, mais est-ce qu'un adulte sans enfant, par exemple, se pose un jour, tiens, je suis peut-être surdouée, ça doit être rare, non, cette question-là?
Oui, ouais. Poser comme ça, c'est archi rare et je crois que ça n'arrive strictement jamais. Alors après, comme on le disait tout à l'heure, c'est vrai qu'on en parle de plus en plus. Donc il y a plus en plus de sujets autour de ça. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui circule beaucoup plus librement. Donc ça peut permettre de se poser des questions, en particulier quand on se sent pas tout à fait en place dans sa vie. Après, oui, ça peut s'identifier, et souvent. Parce que des enfants, là, je faisais référence à cette patiente de 40 ans que j'ai vue il y a une heure, eh bien, elle, son fils de 9 ans, a été identifié avec ce profil-là, il y a donc quelques années. Et en lisant des bouquins sur les enfants, elle s'est dit « Oula, mais ça ressemble quand même beaucoup à moi ».
Mais du coup, comment ça se passe concrètement à l'âge adulte, quand on pense peut-être être surdoué? On doit aller voir qui? Parce qu'autant, quand on est enfant, c'est les parents qui vont nous traîner à droite ou à gauche,
c'est
mais adulte, ça va être un peu plus compliqué.
C'est la démarche qui est à peu près la même, finalement, c'est-à-dire d'aller voir un psychologue, qui sont les seuls habilités à faire des bilans psychologiques.
Avec des tests, hein, c'est ça, hein.
Oui, avec des tests où on va à la fois évaluer l'intelligence, mais aussi où on va explorer la personnalité, toute la dynamique émotionnelle et affective, parce qu'on ne peut pas juste avoir une idée de l'intelligence sans connaître la personnalité et vice-versa. Donc on fait un bilan. Donc souvent, les adultes viennent avec ce questionnement-là, parce qu'ils ont lu un bouquin, parce que leur enfant, parce qu'ils ont vu une émission, parce qu'ils vous ont écouté sur Europe 1.
Donc c'est un bilan avec des questions, des tests. Donc ça veut dire que par exemple, parfois sur internet, on s'est tous amusés une fois, essayer d'aller faire un petit test de QI. Il y a des choses qui nous sont proposées en ligne. Ça suffit pas ça pour dépister.
Ah non, mais ça sert à rien. Si, c'est très sympa pour s'amuser, mais ça n'a aucune.
Moi j'arrive jamais au bout. Je trouve ça chiant au bout d'un moment. En fait, surtout. Donc
surtout qu'on n'y arrive pas. Quand on foire les deux trois premières questions, j'arrive. Non mais de toute façon, je m'en fous.
Moi je m'en fous de ce truc.
C'est des vieux tests, c'est nul.
Ça sert à rien.
Il y a même des émissions de télé, ils font ça et au bout de deux secondes, moi je veux changer de chaîne. Non, allez, on arrête la télé, c'est pas bon.
Ça me fatigue.
Mais en tout cas, ça n'a aucune validité, hein. Évidemment, c'est juste pour s'amuser ou pour se
décourager.
Mais vous
donnez un chiffre de quotient intellectuel à la fin de ce test, vous allez me dire, vous avez 120, 130 ou pas, vous, dans les tests officiels, on va dire.
Oui, dans les tests officiels, effectivement, on a ce qu'on appelle une distribution de l'intelligence autour de la moyenne. Une fois que j'ai dit ça, c'est un grand mot pour dire simplement qu'habituellement, on a une intelligence autour de 100.
D'accord. Hein, ça, c'est Jimmy et moi.
Voilà, mais ça, j'en sais rien.
Vous, mais bon.
100, ça veut, mais c'est pas 100 cm ni 100 kg. Hein, ouais. On n'a pas 100 kg d'intelligence.
Et à combien on est surdoué,
voilà,
alors?
Et après, ça s'éloigne de la moyenne par 15, par palier de 15. Donc, on considère qu'après deux paliers au-dessus de 100, c'est-à-dire à partir de 130 à peu près, on est dans 2,3% de la population. Donc, tout ça, ce sont des validations scientifiques internationales qui l'établissent comme ça.
Est-ce que, avant même de faire un test, vous savez d'emblée, avec votre expérience, si quelqu'un est sûr de ou pas, en posant quelques questions, juste comme ça, en fait, hein,
avec... Il entre et s'assoit, elle sait, je crois.
Et vous dites, oui, ça y est.
J'adore cette question, Jimmy, merci. J'adore cette question parce qu'une fois encore, je reviens à cette patiente là, que je viens de voir. Ça s'est passé exactement comme ça. Ça me donne la chair de poule, rien que vous en parlez. Elle est arrivée avec ses grands yeux incroyables, engagée dans sa vie et en se sentant totalement illégitime. Et je lui ai expliqué que c'est un peu comme un commissaire-priseur face à une œuvre d'art. Si vous voyez une œuvre d'art et c'est votre métier, tout de suite vous voyez si c'est un vrai ou un faux. Après, vous pouvez faire des analyses pendant des heures pour savoir depuis quand la peinture est blabli et blabla. Mais oui, bien sûr. Mais en même temps, c'est très important d'aller au bout du truc parce qu'il y a tellement, non seulement de personnes qui s'autoproclament et puis de professionnels qui s'autoproclament. Et ça, c'est beaucoup plus embêtant parce que sous prétexte qu'eux-mêmes se seraient révélés avoir ce profil-là, alors ils peuvent comprendre les autres.
Vous dites dans votre livre que faire un bilan pour ça, hein, pour savoir si on est surdoué ou pas à l'âge adulte, c'est une démarche qui est courageuse et difficile. Ça m'étonne, moi, parce que je me dis, ça doit être libérateur d'apprendre ça, même à 40 ans. On dit, ah bah oui, enfin ça a du sens, je comprends pourquoi je suis comme ça.
Bien sûr, c'est très libérateur, mais c'est très courageux parce que c'est vraiment une confrontation à soi-même. C'est pas rien quand même de se dire qu'une personne extérieure va aller d'une certaine façon décortiquer les mécanismes avec lesquels vous pensez, vous aimez, vous comportez et va vous faire des révélations sur vous-même. Parce que si effectivement il s'avère que la personne a ce profil-là, ça peut la soulager. Mais s'il s'avère, ce qui arrive souvent bien sûr, que cette personne a un tout autre profil et que c'est d'autres choses qui sont au premier plan, eh bien, c'est quelquefois un premier pas pour qu'enfin la personne se prenne en charge. Et c'est ça qui est pas mal. C'est qu'il y a des adultes qui consultent avec cette idée-là en tête et qui n'auraient jamais poussé la porte d'un psy et qui finalement le font. Et ça permet d'aller plus loin avec eux quand ils en ont besoin.
Est-ce que certains sont en colère de ne pas avoir été identifiés lorsqu'ils étaient plus jeunes avec leurs parents en se disant finalement cette souffrance, C'est lié au fait qu'on n'a pas su mettre les mots sur ce que je suis.
Absolument, et la colère est vraiment la première chose qui arrive. Il y a une forme de colère contre le passé, de colère contre son parcours, de colère contre soi-même.
Si j'avais su, j'aurais fait d'autres choix.
Si j'avais su, ouais. Etc. Alors que, mais c'est normal, la colère, c'est vivant la colère, hein. C'est une dynamique qui se relie à l'énergie vitale, donc c'est bien. Mais c'est normal d'être en colère, parce que si les gens, en plus si les personnes font cette démarche-là, c'est qu'ils ont une sensation de non-aboutissement, d'inaccompli. Donc, du coup, c'est important pour eux de se dire, eh ben, zut alors, si j'avais su, j'aurais fait autrement. Mais tout ça, ça fait partie des illusions psychologiques.
Vous leur conseillez à ces adultes surdoués qu'ils découvrent comme ça sur le tard de s'entourer de leurs congénères, de voir d'autres, d'en rencontrer pour comprendre mieux les choses, je ne sais pas.
Mais c'est-à-dire que d'une façon générale, c'est déjà le cas. Parce que dans la vie, quand on dit qui se ressemble s'assemble, ben c'est pareil avec ces profils-là aussi. C'est-à-dire qu'en fait, au niveau d'identification, il y a trois grands piliers. L'intelligence, évidemment, la puissance intellectuelle, et puis l'ultra-sensibilité, qui n'est pas la sensiblerie, hein, c'est toujours pareil, c'est la capacité aiguisée de l'ensemble des cinq sens à capter les signaux existants dans l'environnement, hein, sont des adultes qui vibrent au moindre murmure du monde. Et le troisième point, qui est la puissance émotionnelle, où effectivement, certains de ces adultes ont des émotions à fleur de peau.
Jeanne Sioffachin, ne bougez pas, on va continuer cet entretien dans quelques minutes.
Europe 1, Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Vous êtes sur Europe 1 dans son rendez-vous, elle nous accompagne toujours cet après-midi. C'est vous, Jeanne Sioffachin. Je rappelle que vous êtes psychologue praticienne, spécialiste reconnue des surdoués. Et on s'intéresse aux grands des surdoués, justement. Parce que des petits, on en parle souvent, mais on va parler des grands, les adultes surdoués. Une fois qu'on le sait, qu'on a cette personnalité atypique, parce que ce n'est pas une maladie, bien sûr, on l'a compris, d'être surdoué. Est-ce que ça peut aider d'intégrer, vous disiez tout à l'heure, qui se ressemble, ça semble, mais est-ce que ça peut les aider d'intégrer des groupes de zèbres comme eux?
Alors, moi j'ai souvent entendu, après un bilan par exemple, des adultes qui peuvent dire mais tout d'un coup un voile s'est déchiré. C'est-à-dire une espèce de sensation de libération. Enfin comprendre, enfin pouvoir revisiter sa vie comme si tu retournes dans un musée que tu connais assez bien mais tu changes les étiquettes dessous. Tu as toujours les mêmes images mais tu réinterprètes, tu recomprends autrement. Et ça, c'est un effet vraiment libérateur pour la plupart des adultes. Et après, c'est vrai que c'est ça qui va... nécessité de se retricoter pour que l'adulte, donc ce fameux zèbre, c'est vrai que moi j'ai appelé ça, justement on parlait de la terminologie, pour sortir de cette terminologie très connotée, les surdoués, les hauts potentiels, et donc voilà, le zèbre c'est différent dans la nature, quand ça court vite ça fait un effet stroboscopique, ça a besoin de sa tribu pour vivre, et puis je suis très fierotte parce que c'est rentré dans le Larousse de l'édition 2021, donc je suis très fierotte, mais en tout cas je suis contente parce que ça a permis aussi de pouvoir parler de zèbre sans avoir cette sensation un peu étrange. Et après... en particulier dans le monde professionnel, ça aide considérablement les adultes à mieux comprendre comment ils peuvent aménager leur fonctionnement en regard de celui des autres et moins se sentir toujours trop souvent, le vilain petit canard et comprendre pourquoi ils peuvent surréagir à telle ou telle situation ou avoir besoin d'aller jusqu'au bout alors que tout le monde trouve qu'il faudrait mieux s'arrêter à ce stade-là.
Et justement, c'est pour ça que vous dites qu'ils ont tous une part infantile qui est très présente. C'est pour ça qu'ils sont aussi un peu différents des autres. C'est jusqu'au boutiste, comme les enfants.
Avec cette part, enfin, en tout cas, moi, pour tous ceux que j'ai rencontrés, bien évidemment, avec cette part d'émerveillement. C'est-à-dire cette capacité à s'émerveiller, de garder d'une certaine façon une âme d'enfant. Parce que quand on est curieux de tout, quand on s'intéresse à beaucoup de choses, quand on a cette pensée foisonnante, quand on a ce cœur grand ouvert, cette sensibilité à fleur de peau, eh bien on peut s'émerveiller de mille et une petites choses. Et ça donne une forme de légèreté de vivre ou de gravité de vivre. Parce qu'il y a toujours un peu les deux dans la balance chez ces profils-là.
Donc ce sont des enfants d'une certaine façon. Est-ce que ça veut dire que les surdoués sont plus crédules? Un enfant, bah, ça croit plus tout et n'importe quoi.
Ils ont un côté un peu naïf, c'est vrai. Merci Mélanie de me poser cette question. Et ils ont un côté un peu naïf parce qu'en fait, ils ont des valeurs qui sont non négociables. Comme l'absolu, l'amitié, l'amour. Et la justice. Et donc, ils s'engagent, mais à fond dans les trucs. Et la moindre trahison, c'est un drame pour eux. Donc, on pourrait se dire, mais ça va, calme-toi, ne réagis pas si fort. Et ça peut donner une sensation qu'ils n'ont pas mûri. Et d'ailleurs, chez les enfants, on dit souvent, ah oui, mais ok, il est très intelligent, mais il n'est pas assez mûr. Toute sa vie, il restera avec ses émotions comme ça.
Et est-ce qu'un adulte à haut potentiel, une fois qu'il s'est identifié, il ne peut pas être aussi dans un sentiment un peu de toute puissance, se croire finalement, peut-être à juste titre, plus intelligent que les autres, et se rendre compte que ça ne va pas assez vite, et qu'autour de lui, la vie est triste, et qu'ils sont tous un peu nuls, comparé à lui, en fait?
Je crois que quand on rencontre un adulte surdoué qui va mal, enfin, pardon, un adulte surdoué qui a un ego surdimensionné, alors il faut s'inquiéter, c'est qu'il est en souffrance et en difficulté. Parce que quand on repère avec autant de lucidité les failles et les limites des personnes autour de soi, c'est d'abord les siennes propres que l'on repère. Et on ne peut pas avoir la grosse tête quand on est surdoué, parce qu'on est trop, on a trop cette perception aiguisée de ce qu'on est et de nos propres limites.
Donc il n'y a pas d'homme politique surdoué alors?
Non, c'est un autre débat. Non, on va parler de ça. Alors, vous dites dans peut-être, je pense que oui. Mais c'est un autre sujet.
Vous dites dans votre livre que les surdoués, finalement, bah, c'est pas si simple d'être surdoué non plus, parce que ce sont des gens qui ont peur tout le temps, la peur les habite littéralement. Moi je pensais qu'on était quand même très fort, donc du coup, que, je ne vois pas pourquoi on aurait peur.
Ben, c'est toujours un peu le même truc, c'est que d'abord, tout le monde n'a pas peur, hein, mais la peur est toujours présente. D'abord, elle est présente chez chacun d'entre nous. On a tous peur.
Ça nous permet de survivre.
Voilà, hein, c'est ça. Hein, c'est important. Et ensuite, précisément, quand tout est intense, quand tout est puissant, quand tout est surdimensionné, la peur aussi peut être immense, parce qu'on a peur de pas bien faire, on a peur de pas y arriver, on a peur, comme on le disait, de l'imposture, on a peur de la légitimité, on a peur de pas être aimé, on a peur de pas aimer assez, on a peur de pas bien faire. Tout est...
C'est un peu étouffant tout ça, moi, je
trouve.
Tout
est too much, mais ça ne veut pas dire que... Et c'est ça qui est assez un peu touchy, un peu subtil à attraper, c'est que ce n'est pas parce que... on peut très bien réussir socialement, avoir une réussite affichée, être un homme politique adoubé ou pas, ou être un grand patron, ou être une grande star. Il y a beaucoup, beaucoup d'artistes qui ont ces profils-là. Et donc réussir... Et malgré tout,
terrorisé.
Avoir au fond de soi comme un petit enfant qui juste s'en pousse et qui a peur de tout ce qui lui arrive presque. Hein.
Et si tout est décuplé quand on est surdoué, est-ce que dans l'amour c'est la même chose? Est-ce que les relations à deux sont plus difficiles quand on est surdoué?
Surtout si on avait quelqu'un qui ne l'est pas, quoi, j'imagine.
Oh, c'est pire quand il y a deux surdoués ensemble, jamais c'est dit sur l'un de l'autre. Oh, tu pourrais faire mieux.
Il y a beaucoup d'idéal. Et donc effectivement, comme tout est intense, comme l'amour est intense, le besoin d'amour est intense, et puis le besoin d'une relation qui va tout déchirer, c'est-à-dire vraiment une relation dans laquelle on va s'engager à fond, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais il y a toute cette hypersensibilité qui va le plus souvent avec, et qui va aussi tout amplifier. Donc les déceptions peuvent être plus nombreuses, parce qu'on va vite repérer le truc qui ne va pas bien ou le truc qui ne correspond pas à son idéal d'amour. Et pour un surdoué, l'amour, c'est toujours avec un grand A. Ce n'est pas une petite histoire.
Quand ils découvrent qu'ils sont surdoués, ce n'est pas là qu'ils quittent leur mari et leur femme, j'espère. Parce qu'ils se disent, oh ben mince, je me suis peut-être trompée, maintenant que je suis surdouée, je mérite mieux, non?
Non, pas forcément, mais ce qui est rigolo, c'est que les relations sexuelles, par exemple, chez les adolescents, on sait en France que c'est à peu près autour de 17 ans. Et ben chez les adolescents surdoués, il a été montré que c'est plus tard. Parce qu'avant de s'engager, ils ont la trouille. Parce qu'ils ne veulent pas se tromper. Parce que l'amour, ça ne rigole pas. On ne va pas comme ça sortir avec un tel ou une telle.
Faut bien réfléchir avant, quoi.
Voilà.
Est-ce que ça peut être difficile aussi en amitié? Puisque le surdoué, je crois qu'il n'aime pas trop non plus l'injustice. Donc il faut une relation authentique, sincère. Est-ce qu'il y a beaucoup d'intensité quand on est ami avec un surdoué?
Il y a beaucoup d'attentes de la part du surdoué, en effet. Et en même temps, il y a beaucoup de... souvent, après, c'est pas aussi caricatural que ça non plus. Hein. Mais il y a aussi souvent beaucoup de générosité, de bienveillance et d'humilité en réalité. Donc il y a à la fois beaucoup d'attentes et beaucoup d'intensité, et à la fois une grande capacité à dire oui, mais finalement... je peux pas attendre de l'autre ce dont moi j'ai besoin, c'est-à-dire une capacité à pardonner.
Mais le surdoué, il a tout le temps besoin de savoir qu'il compte pour quelqu'un. C'est important pour tout le monde, ça. On a tous envie de compter pour quelqu'un. Mais pour eux, c'est plus que ça. C'est vital, vous dites. Hein.
Oui, c'est vital, mais parce que, justement, finalement, être surdoué, c'est un excès de la normalité. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose de différent, mais c'est un excès de quelque chose. Un peu d'ailleurs comme la pathologie, hein, d'une façon générale, qui est toujours un excès de quelque chose. Mais là, c'est pareil. Donc, on a tous besoin d'amour, on a tous besoin d'être compris, d'être entendu. Mais cela, sûrement, un peu plus et un peu plus fort.
Merci beaucoup. Oui, Jimmy, allez-y, vous avez une dernière petite question.
Est-ce que les surdoués sont plus heureux entre surdoués ou est-ce qu'ils ont besoin des autres pour s'enrichir ? Est-ce qu'ils sont mieux repliés sur eux-mêmes ou au contraire, lorsqu'on est dans une forme de diversité ?
Moi, je crois que c'est comme pour les passionnés de foot. C'est-à-dire, de temps en temps, c'est bien d'être avec ses copains footeux. Et puis, c'est bien d'être aussi avec des tas d'autres gens qui ont des tas d'autres sujets d'intérêt. Ouais.
C'est une belle conclusion.
Très bien. Merci beaucoup, Jeanne-Sio Fachin, d'avoir été avec nous cet après-midi pour cet éclairage très précis donc, sur ces adultes atypiques. Pour ceux qui voudraient en savoir plus, je rappelle votre livre « Trop intelligent pour être heureux ?» Les adultes surdoués, chez Odile Jacob. Merci encore.
Europe 1, Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Faites de votre logement un cocon où vous vous sentez bien, avec un air intérieur plus pur, plus propre. Le rendez-vous bien chez soi avec les purificateurs d'air Dyson.
Votre émission Santé, Bien-être, sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h. On va passer à présent à notre séquence Bien chez soi. Aujourd'hui, on va parler de la qualité de votre air intérieur, chez vous, dans votre appartement ou votre maison. Avez-vous une idée de comment tout ça se mesure ? Ça vous dit quelque chose, un capteur de CO2 ? Savez-vous comment cela fonctionne ? Notre journaliste Valentin Piovesan vous a posé toutes ces questions, on écoute son micro-trottoir.
Mesurer l'air de son intérieur. Il me semble qu'il y a des appareils.
Ce petit panneau de contrôle qui permet de voir la température, l'humidité, tout ça. À mon avis, ça doit être ce truc-là.
Je suis pas du tout sûre, mais peut-être qu'il y a un rapport avec les plantes aussi.
Ah oui, totalement. Si on a trop de plantes dans notre chambre, en fait, elle va bouffer tout notre O2 et donc du coup, on va pouvoir moins respirer.
Bon, j'imagine de toute façon que c'est important d'avoir un intérieur confortable. Et si on a du mal à respirer, bah, c'est pas confortable.
C'est juste de l'hygiène de vie que d'aérer sa maison. Comme nous, on respire, la maison a besoin de respirer aussi.
On pourrait peut-être aérer la chambre, appeler des spécialistes qui pourraient nous aider aussi, tout simplement.
Alors Jimmy, d'abord en cette période de Covid, hein, il faut le dire, on nous dit en permanence et nous-mêmes on le répète sans cesse dans cette émission, il faut aérer chez vous. Pourquoi ? Est-ce que c'est si important de renouveler l'air comme ça régulièrement ?
Alors en temps normal, il faut ouvrir chez vous le matin et le soir car finalement l'air intérieur est plus pollué que l'air extérieur. Hors pic de pollution, et si évidemment vous ne mettez pas votre tête sous un pot d'échappement, eh bien malgré tout, vous avez de la pollution intérieure. Et en plus de ça, on sait que quand on est dans un milieu clos, vous allez respirer de l'oxygène et vous allez expirer du dioxyde de carbone. Et plus on est nombreux, plus la pièce est petite, plus vous allez émettre du dioxyde de carbone qui potentiellement va être respiré par quelqu'un d'autre et donc vous rendre malade. C'est le principe de l'aérosolisation, c'est-à-dire des petites gouttelettes qui vont contaminer la pièce et qui font qu'on va être malade en milieu clos.
Alors, si j'ouvre toutes mes fenêtres, hein, au moins une ou deux fois, vous avez dit, par jour, et que je ne passe pas des heures chez moi, en gros, ça va, on limite les risques. On aère quand et comment ? Parce que vous avez dit, matin et soir, deux fois, c'est bien. En période de télétravail, peut-être un peu plus, si on est tous à la maison. Hein.
Et bien, c'est toute la difficulté. C'est parce qu'on ne sait pas exactement combien de fois il faut ouvrir la fenêtre par jour, puisque finalement, ça va dépendre de la surface de la pièce. On peut imaginer que si vous habitez dans un immense château et que vous êtes seul, et bien vous n'avez pas besoin d'aérer la pièce. Alors, à l'inverse, si vous êtes 4 ou 5 dans une pièce qui fait 10 ou 12 mètres carrés, eh bien, au bout d'une heure, il est possible qu'il faille déjà ouvrir la fenêtre. Donc ça dépend de la superficie et du nombre de personnes qui sont présentes.
Voilà, et c'est là où ça va devenir très intéressant. Il y a un moyen de savoir précisément si un espace clos a un air de bonne qualité ou pas, s'il y a trop de CO2 ou pas. Vous nous avez apporté un petit appareil, Jimmy, de quoi s'agit-il ?
Alors justement, je vous ai dit que plus on est nombreux, plus on va expirer du dioxyde de carbone et plus il va falloir ouvrir la fenêtre. Et
bien là, il existe heure, hein, qu'on est dans cette
un petit
pièce,
détecteur
là,
de dioxyde de carbone. C'est un petit carré, un petit boîtier sur lequel vous avez un chiffre et des couleurs, un code couleur vert, jaune et rouge. Lorsque c'est vert, ça veut dire que le taux de dioxyde de carbone présent dans la pièce est plutôt bas. D'ailleurs, heureusement pour la chronique, elle n'est pas foutue en l'air.
On est vert, on est vert, on est bon.
Ça veut dire, mine de rien, qu'on est, nous, on respecte les distances, on porte un masque, mais qu'en plus de ça, la pièce est bien aérée. Lorsque le voyant passe au jaune, ça veut dire que la pièce est mal ventilée. Souvent, c'est avec un chiffre au-dessus de 1000.
Donc,
il faut ouvrir, les fenêtres.
Hein.
Et puis, lorsque ça passe au rouge,
on change de pièce, on se casse.
Exactement, alerte incendie, il est temps de partir. Ça veut dire que peut-être que demain, lorsque les commerces vont rouvrir, les théâtres, les restaurants, les classes, il faudrait peut-être avoir ce genre de dispositif pour savoir quelle pièce est sécurisée et surtout bien aérée.
Ces appareils, on les trouve où ? Est-ce que, enfin, combien ça coûte aussi ?
Alors ça coûte de l'argent. Celui-là, le modèle que j'ai acheté, coûte 200 euros.
Eh, quand même.
Donc 200 euros, c'est un investissement. C'est-à-dire que si vous habitez seul, Vous n'avez pas besoin d'acheter ce genre
si
de truc.
Si on ouvre ses fenêtres, ça
vous
va.
Vous ouvrez vos fenêtres à l'ancienne, comme on vous le dit.
Mais voilà. Pour des hôpitaux, pour des oui. salles d'attente chez les médecins,
exactement.
Des choses comme ça, ça peut être
et
un investissement.
Et certaines écoles ou des universités commencent à justement investir dans ce genre de dispositif parce que c'est une façon sécurisée de retrouver une vie normale ou en tout cas d'espérer de s'adapter, de vivre différemment avec le virus.
Très bien, merci beaucoup Jimmy pour toutes ces précisions et donc ce bol d'air frais. Merci beaucoup.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1. Nous sommes avec vous, bien sûr, depuis 15h et avec grand plaisir. Nous accueillons tout de suite Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Catherine, on va terminer la semaine avec cette question de Mathieu. Il nous dit la chose suivante. L'autre jour, nous avons appris que dans un couple d'amis, ils s'échangent leur code de téléphone. Ma femme m'a alors proposé de faire la même chose. Je lui ai répondu qu'il n'en était pas question, que c'était mon intimité. Qui a raison. Le téléphone, c'est régulièrement un objet de conflit, je crois, Catherine, dans le couple. Il y a ceux qui fouillent, qui ont les codes ou qui font croire qu'ils ne les ont pas, mais qu'ils les ont. Je ne parle pas de vécu du tout, hein, mais j'entends souvent dans des histoires de couple que c'est un peu problématique, quoi.
Ah bah bien sûr que c'est problématique puisque dans ces téléphones, c'est avec qui je parle, c'est comment je parle puisqu'il y a les SMS ou
sans
les
forcément
mails.
Avoir d'amant ou de maîtresse d'ailleurs, hein, mais c'est des choses qu'on n'a pas toujours envie de dévoiler à l'autre. Quoi.
Oui, parce que dans la réalité, c'est pas parce qu'on aime profondément quelqu'un et qu'on lui est fidèle que nos pensées sont toutes dans sa direction, que nos libertés ou nos difficultés aussi à poser des limites à l'autre qui nous appellerait ou nous écrirait et qui fait qu'on répond gentiment, mais c'est pas pour encourager, mais à la fois on n'ose pas être trop, au prétexte d'être marié ou en couple, trop coincé. Alors du coup, on joue un peu le jeu d'une séduction, même si ça va pas plus loin. Et pour autant, on n'a pas envie que quelqu'un puisse assister à cette espèce de soit de plaisir personnel, de voir jusqu'où peuvent aller les échanges et ce que l'on crée, ou au contraire, que l'autre voit que on ne sait pas limiter la personne qui est en face parce qu'on ne veut pas passer pour quelqu'un qui serait un peu coincé, un peu classique, un peu trop moralisateur, etc. Donc en fait, c'est vrai que c'est très intime parce que ce sont des lieux où réside l'épreuve de nos aléas, de nos réflexions, de nos jeux érotisés parfois, même quand il n'y a pas d'érotisme dans les faits.
Alors on peut comprendre que certains voudraient avoir un peu d'intimité, mais opposer un refus lorsqu'on demande le code,
bah c'est louche.
Bah tout d'un coup, ça devient suspect, alors que même si on avait peut-être rien à se reprocher, si on dit non, on se dit ouais, au-delà de l'intimité, il y a peut-être,
pense,
voilà, là on donne du grain à moudre à sa compagne.
Ah, ça, c'est toujours le risque, mais c'est aussi intéressant de dire, écoute, je n'ai rien à cacher, parce que c'est ça l'argument, c'est, si tu ne me donnes pas ta
c'est que tu as des choses à cacher.
Voilà. Je n'ai rien à cacher, mais je n'ai pas envie que mon téléphone, ce que j'ai pu dire
soit
hier,
en accès libre,
ou ce n'est pas ce que j'aurais dit aujourd'hui, je n'ai pas envie que tu puisses remonter le fil de mes réflexions, de mes échanges, qui suit aussi le rythme des aléas de notre relation. Il y a des moments... on va dire, bah, écoute, je serais bienvenue, mais elle est encore fatiguée.
Celle-là.
C'est pas gentil. Pour autant, le lendemain, on est fou amoureux de sa femme.
Oui,
et puis,
sûr.
Quand on a dit ça, on était un peu en colère, mais pour autant, on aimait sa femme. Sorti du contexte, les mots sont pas toujours chouettes à lire. Et pourtant, on a le droit de dire, il m'embête, il m'emmerde.
Donc, il a le droit
de
dire non, mais il aurait peut-être pu lui dire, que je ne te donne pas accès à mon téléphone comme je ne veux pas avoir accès au tien. Enfin, c'est juste que c'était nos règles avant. C'est pas parce qu'on a connu ce couple-là qui s'échange et eux, ils se font confiance ou je ne sais quoi, qu'on doit faire la même chose.
Oui, et puis on peut même dire, et puis d'ailleurs, si on était d'ici demain dans une soirée, on entend qu'ils échangent des partenaires, ben on n'a qu'à échanger des partenaires tant qu'on y est.
C'est-à-dire
que
les
autres ont leur mode de fonctionnement, leur relation, leur intimité, au nom de je ne sais quoi. Et d'ailleurs, si on veut se cacher des choses, même quand on a les codes de téléphone, on trouve toujours le moyen de cacher
autrement. Il y a des
gens
qui ont deux téléphones aussi.
Bah oui, c'est ça. Je vous trouve un peu naïve, excusez-moi de vous dire ça. De dire,
ça y est, non, mais
on pourrait dire non, mais je n'ai rien à cacher, je ne veux pas te blesser, de mots sortis du contexte.
Vous avez accès au téléphone de votre femme ?
Oui, mais je ne le regarde jamais. Elle a tout comme elle a accès
pareil,
au mien, on a le même
bon.
Code hein, d'ailleurs. Donc c'est très simple. Hein. C'est le 0202 pour les auditeurs qui voudraient nous entendre. Mais du coup, est-ce que vraiment on peut se permettre de dire ça dans la vraie vie ? Parce que là, on a quand même l'impression que bah, c'est un peu le monde des bisounours de se dire « Non, non, mais sorti du contexte, tu serais peut-être blessé. » Oui, il y a de quoi être blessé peut-être. S'il a dit qu'elle était chiante, on peut comprendre qu'elle soit fâchée.
Bien sûr, mais à la fois...
Moi, je suis d'accord avec Catherine.
C'est-à-dire que... En
tu rabat-joie.
Non, mais est-ce que vous êtes sûr que vous mesurez toujours... Alors peut-être que quand on écrit, on est un peu plus attentif, mais je crois qu'il y a des gens, surtout dans les SMS, qui ne mesurent pas toujours le poids des mots. Et encore une fois, parfois, Les SMS sont des trucs très courts, donc ça peut être extrêmement brusque. Donc je pense que...
Dans l'absolu, c'est quelque chose que vous conseillez ou pas d'échanger les codes, d'avoir accès à tout l'univers virtuel,
De même que je dis qu'on n'a pas, accès à ce qui se passe, par exemple, pour les enfants qui écrivent des journaux intimes. Pourtant, on pourrait se dire que dans ces journaux intimes, il y a peut-être aussi ce qui nous permettrait...
Ça, vous déconseillez, il ne faut pas aller lire le journal intime de son enfant, non ?
Non, et pourtant...
Maman, si tu nous écoutes, c'est pas bien ce que tu as fait.
Voilà. Mais c'est pas terrible. Et pourtant, ça peut être... Souvent, les parents le font juste pour vérifier que leurs enfants vont bien.
Ouais,
et ça peut être plutôt délétère. Je pense que ça n'est pas bien de savoir ce que pense ou dit... je sais pas, vous pouvez avoir un mari qui va vous dire de sa mère des choses épouvantables. Et puis quand vous regardez les écrits, c'est ma maman chérie, adorée, etc. Et trouver qu'il est lâche de ne pas lui dire. Donc, vous voyez, ça fait des jugements sur des sujets. Je pense
donc
que
vous ne conseillez pas, vous, en tout cas.
Je trouve que, de toute façon, écouter ce qui est dans la tête de l'autre, alors c'est une partie de ce qui est dans la tête de l'autre, c'est pas toujours facile à gérer de toute façon. Donc, je ne suis pas pour les secrets, je ne suis pas pour les vies compliquées. Mais de là à donner au
prétexte. L'accès intégral, pourquoi pas.
Oui, ça ne doit pas être un jeu très sain. Il y a d'autres choses à créer ensemble que d'aller a posteriori regarder ce que l'autre vit.
Merci beaucoup, Catherine, pour tous vos conseils précieux. Comme toujours, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, je vous souhaite un excellent week-end.
C'était Sans Rendez-vous avec Cyclamed. Hors période de confinement, rapportez en pharmacie vos médicaments non utilisés. Qu'ils soient périmés ou non, Cyclamed les collecte et les valorise. Plus d'infos sur cyclamed.org.